Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Dans le bureau de Par Jupiter, c'est au tour de Guillaume d'investir le bureau pour assurer sa journée de permanence.
Oh là, ça fait bizarre, là, c'est tout vide, là. Oh, les gens ! Vous êtes où, là, les gens ?
9h31, dans le bureau de Par Jupiter.
Bon, bah, je vais lire l'humain.
9h32, dans le bureau de Par Jupiter.
Salut les amis, bon ben, je suis bien au bureau, il n'y a pas beaucoup de monde ici, je m'ennuie un peu, j'espère que vous passez les bonnes vacances. Moi j'ai pas grand chose à me mettre sous la dent, quoi. Bisous.
9h33, dans le bureau de Par Jupiter.
Parce que c'est notre projet.
Ah là, c'était le bon vieux temps ça. Et puis à celui-là aussi.
La République, c'est moi.
C'est magique. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. C'est nul, là, y a personne à embêter.
9h35, dans le... Bon, écoute, Guillaume, tu vas pas me faire énumérer les minutes une par une, là. Bouge-toi un peu, avance dans ton travail pour la rentrée.
Pour la quoi? Ça va pas, je suis en vacances, moi. Congé syndical, mon pote. Non mais attends, je vais pas me laisser emmerder par une voix off, non?
9h36, dans le bureau de Par Jupiter.
Voilà.
France Inter, vous écoutez la seule émission qui rend régulièrement l'hommage qui lui est dû à Michel Thor.
Ah.
Ce qui ne nous empêche pas aujourd'hui de passer du temps avec Romeo Elvis.
C'est bien aussi.
Calmez-vous les filles, calmez-vous. Aussi. Ayant écouté son album, on lui a soumis un sujet sur le cannabis. Car de plus en plus de Français sont favorables à sa dépénalisation. Nous avons ensuite tenté un sujet de niche, le sexe éco-responsable. Et ça, on l'a mis à la fin pour que vous restiez tous avec
c'est
nous,
malin.
Évidemment. Fumette et sexe, un beau programme pendant les vacances scolaires.
Très bien.
Après le chanteur belge, on invite un écrivain américain, Robert Little, dont le bonheur des compatriotes est en chute libre. Oui, c'est l'ONU qui calcule l'indice de bonheur. Et chez les ricains, c'est la déprime, à cause de l'incertitude bien sûr que génère Donald Trump. Et Robert Little est aussi passionné par la Russie. On lui soumettra donc le cas de ce jeune blogueur qui se dresse contre Poutine. Alex, si oui. Les ricains n'étaient pas là, quel chroniqueur nous n'aurions pas pu entendre aujourd'hui et nous restions en absurdie?
Exactement, et aucun chroniqueur allemand. Donc, c'est facile aujourd'hui. Mélanie Bauer va parler du disque de Romeo Elvis. Clara Dupont-Monod va parler du livre de Robert Little. Entre les deux, nous aurons évidemment Guillaume Meurice qui s'est trouvé une victime autodésignée, le lobby du plastique. On terminera évidemment par une chanson de Frédéric Fromet pour une de ses meilleures muses, Patrick Balkany, sur du Florent Pagny, si tu veux m'essayer.
Ça me paraît bien organisé cette émission.
Ah, c'est carré,
hein.
C'est produit.
Mais on n'a pas fait exprès pourtant. Ouais. Allez, on démarre avec Romeo Elvis. Fume, c'est du belge.
Allez, descente d'organes en direct.
Bonjour Romeo Elvis, moi il a l'habitude. Maintenant il est rodé Romeo Elvis.
Il est blasé.
Bienvenue.
La honte.
On va parler de votre nouvel album qui s'intitule Chocolat. Alors déjà on va parler, on vous a pendant une heure, on va en profiter. Ma première impression à l'écoute de votre album Romeo Elvis, c'est j'ai l'impression que vous vous foutez à poil. Je vous ai vu nu. Vos états d'âme, votre milieu, vos relations aux autres. Mais ça veut dire, vous parlez beaucoup de vous, il y a beaucoup de sincérité. Alors justement, le rap, comme c'est la nouvelle variété, la musique qu'on entend partout et qui fait beaucoup de fric, est-ce qu'il faut d'autant être plus sincère aujourd'hui? Est-ce que c'est de ça dont a besoin le rap aussi aujourd'hui?
Je sais pas ce dont a besoin le rap, je serais mal placé pour le dire. Mais je sais qu'en tout cas, ça a quand même étonné pas mal de mes amis rappeurs ou journalistes dans le rap d'avoir autant d'être aussi impudique dans l'album. Donc je sais pas si c'est spécialement quelque chose qui se fait pour l'instant beaucoup.
Ouais. Alors précédemment, vous avez collaboré avec beaucoup de jeunes rappeurs. Et ici, vous collaborez avec M et Damon Albarn. Est-ce que vous voulez entrer dans un rap plus adulte? Parce qu'ils sont plus âgés.
Ouais, clairement, ils sont plus âgés. Je sais pas. Je sais juste que je me suis fait un kiff en fait là-dessus. J'ai réalisé des rêves quoi d'adolescent que de faire de la musique avec Mathieu Chédid et avec Damon Albarn.
Ouais.
Donc c'était plus cette optique là de se faire plaisir sur l'album vu que j'avais page blanche un peu, je pouvais faire ce que je voulais. Quand Barclay m'a dit je suis chez Barclay donc en en label. Et quand ils m'ont dit, tu sais, on a un téléphone magique, il appelle tout le monde, tu peux avoir, tu vois, on peut essayer de contacter qui tu veux.
Ils ont le 06, quoi.
Voilà, c'est ça. Nous, on a le 06 de Mathieu Chédid et de peut-être de Damon Albarn. Ils se sont rendu compte que j'étais très fan et que j'en parlais tout le temps en interview. Et du coup, bah, je me suis fait plaisir, en fait.
Ah ouais, mais une fois qu'ils disent oui, est-ce que c'est à ce moment-là que vous commencez à réfléchir à ce que vous pouvez faire avec eux ? Par exemple, quand vous dites qu'est-ce que je fais avec Mathieu Chédid ?
Mais en fait, avec Mathieu Chédid,
à part une belote, je veux dire.
Ça a été assez simple parce que on avait déjà un morceau et on s'est dit ah, sur celui-là, il va vraiment être, ça va vraiment bien marcher. Pour Damon Albarn, ça a été plus compliqué parce que on a dû lui proposer quelque chose et on a dû créer quelque chose de toute pièce avant qu'il arrive en studio. Et moi, je m'étais mis aussi à la compo sur le morceau, donc on s'est mis avec Vladimir Cauchemar, on s'est mis à deux dessus. Et ce qui est assez drôle pour l'anecdote, c'est quand il est venu au studio, j'étais très intimidé par sa présence. Ouais. Et j'ai même pas dit merci d'être là et tout. J'ai fait ah voilà bon c'est ça le morceau qu'on a fait ensemble et tout tout de suite. Et lui en fait il est assez il est pas américain quoi. Il est anglais ça se ressent. Il est british quoi. Donc il est le flegme à l'anglaise. Et du coup il a fait le truc. Allez disons qu'on n'a pas passé deux heures de studio à péter de rire ensemble, mais on était concentré sur le truc qu'on devait faire. Quoi.
Faire aussi, ouais.
Du coup, il a tout écouté, puis après, il s'est mis tout de suite.
Alors, je disais, je vous ai vu à poil avec vos états d'âme, votre milieu, votre relation aux autres, etc. Il y a aussi toutes vos valeurs, vos engagements, votre thème de prédilection. Et là, il y a un thème qui, en Belgique, n'apparaît pas spontanément, qui apparaît plus spontanément chez les rappeurs en France, qui est le colonialisme, le post-colonialisme. Et dans votre album, il y a un très très beau morceau qui s'appelle « La Belgique-Afrique ». Et c'est vrai qu'en tant que Belge, c'est un sujet que nous, on n'aborde jamais spontanément. Puis là, vous y allez. Qu'est-ce qui vous a donné l'étincelle et comment vous vous êtes dit « je vais aborder le Congo belge » ?
L'événement qui m'a rappelé que j'avais vraiment envie de parler de ce sujet-là, c'est l'événement de cet été au festival de Pukkelpop en Belgique. Donc il y a des jeunes festivaliers belges qui se sont amusés à je crois qu'ils ont même été jusqu'à violenter des festivaliers en fait, et déjà juste avec les mots c'était déjà assez violent, ils ont entonné des chants racistes colonialistes quoi en fait.
Pendant le concert de Kendrick Lamar.
Exactement, ouais. Un truc qui disait main coupée, le Congo est à nous, un truc comme ça, donc en gros qui fait référence aux exactions belges pendant la période de colonisation. Mmh. Et moi, en tant que fils de personne qui a travaillé au Congo, je vais pas dire fils de colon, parce que mon grand-père était absolument pas un colon.
Il était administrateur, il travaillait dans l'administration.
Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, en tant que petit-fils de grand-père qui a travaillé au Congo, je suis mal à l'aise de cette situation, parce qu'on n'en parle jamais, on n'en a jamais parlé à l'école.
Il n'y a jamais eu d'excuse de la Belgique.
Il n'y a jamais eu d'excuse de la Belgique. D'ailleurs, quand le morceau était fait, et une semaine ou deux après qu'il était vraiment finalisé au niveau de l'enregistrement, je commençais à me poser des questions. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce morceau ? Est-ce que vraiment j'ai envie d'assumer ce truc ? On va me tomber dessus. Et cette semaine-là, il y a un rapport de l'ONU qui a été déposé en Belgique, qui a été proposé par des experts historiens en disant qu'il fallait qu'on revienne sur le passé de la Belgique et qu'elle devait s'excuser peut-être, ou en tout cas revoir sa position par rapport au passé, quoi. Mmh. Donc ça m'a paru assez légitime au final.
Romeo Elvis est avec nous, eh bien parlons-en avec Mélanie Boer.
Oui, alors bon, tant pis, je le dis, je suis vieille. Hein. Je suis la daronne d'une enfant adulte, une femme qui trébuche sur les mots des jeunes et pas que sur leur vocabulaire, leurs angoisses aussi. Oui, mais je suis une yeuve. Branché. C'est un peu comme un vieux beau Guillaume Meurice, mais sans la bagnole. Donc, j'essaye de comprendre ce nouveau monde où France Inter est numéro 1, où le hip-hop devient la variété, mais c'est clair, il me claque dans la tête, elle a un élastique trop tendu entre les doigts, une pichenette dans mes repères. Ce nouveau monde ébranle mes certitudes qui datent, il faut le dire, du siècle dernier.
Faut pas commencer le chocolat. Et si tu le fais, faut toujours être à deux. Mon ami, j'espère que t'es fort en main. Tu vas pas pouvoir compter sur la beuh. Tu vas pas pouvoir compter sur la beuh.
Chocolat, hein, c'est donc la beuh, mais c'est aussi le chocolat belge, il faut le dire. Bah oui, la première chose que je me dis, comme une mamie, hein, quand j'écoute ce titre angulaire du nouvel album de Romeo Elvis, c'est « Oh bah de mon temps !» Aussi, on disait ça dans le rap. On disait que le cannabis, eh bah ça rendait pas forcément heureux.
Je fume plus de shit, j'ai la conversation.
Non mais c'est vrai, parce que moi, tu
es tout seul dans mon coin, à flipper comme un con. Je peux aborder une femme.
Je laisse un peu parce que j'adore.
Je me sens moins cool.
Alors je me console en me disant que oui, bon, bah, j'ai de l'expérience. Hein. Cette chanson de Stupéflip, par exemple, elle explique bien le chemin qu'a pris le rap d'aujourd'hui, de mon temps. Un rappeur qui allait chercher Jacquenot, le précurseur de la French Touch, la scène électronique française, pour faire du rap, c'était révolutionnaire. On n'imaginait pas, dans les années 90, que le rap sortirait de ses bases funk pour aller avaler toutes les musiques. On criait même au blasphème quand il se mélangeait au sacro-saint rock. Bon, il y avait bien Africa Bambaataa, hein, qui avait samplé Kraftwerk dans les années 80, mais on se disait que c'était un phénomène isolé, que ça marcherait jamais, ce genre de nuance de gris. Et puis, bam, 2010 est arrivé avec la trap musique et puis les Canadiens, là, genre Drake. Alors là, on s'est tous pris un gros coup dans nos préjugés. Les jeunes avaient régurgité la musique électronique, digéré le jazz et les rappeurs se lançaient à vocaliser leur mélancolie dans des égotripes de plus en plus sensibles et chantés. On était tous paumés, nous les vieux fans d'IAM, on n'a plus rien compris. Interlude. C'est l'interlude de Chocolat de Romeo Elvis. Oui, parce que ces petits cons, en plus d'être jeunes et de faire du rap complètement différent du nôtre, ils se permettent d'être d'excellents musiciens. Mais où va le monde, franchement? Et puis, ils font 2 mètres, ils se trouvent vieux alors qu'ils ont même pas encore 30 ans. Ils nous font chialer quand ils touchent la mort avec leurs grands yeux innocents. Et pire encore, ils ont le courage de dire ce qu'on aurait dû gueuler bien fort, nous, quand nos parents, ils écoutaient Sardou et le bon temps des colonies, quoi.
D'être belge quand je vois des jeunes entonner des chants racistes pendant un festival. Quand je vois l'accueil réservé aux migrants et quand je vois le discours mal caché de la NVA. Nos racines génocidaires devraient nous servir de rappel. On est qui pour oser vouloir fermer la porte? Ouais, c'est la merde, je suis d'accord, et alors? C'est comme ça qu'on finit par voter pour un
vieux d'être belge. Bam, dans ta face, la génération X qui avait tout bien rangé la musique dans ses cases, hein, comme dans un jeu d'échecs, les blancs d'un côté, les noirs de l'autre. Je suis d'ailleurs pas étonnée de trouver d'amener Albarn ou M sur le nouvel album de Romeo Elvis, parce que ce sont des précurseurs, des briseurs de frontières, des adultes qui s'accrochent à la pureté lucide de l'enfance, comme Philippe Catherine, dont vous êtes fan et qui fut votre sage-femme. Ce sont donc des hommes que l'on peut qualifier d'artistes parce qu'ils sont comme vous. Ils préfèrent les questions aux réponses. On ne peut pas les ranger, les analyser sans se mettre le doigt dans l'œil. Leur musique, elle touche directement au cœur.
Pas pour canaliser, y'a trop de bâtards, y'a trop de bâtards pour tout baliser. La faute au réseau, même si les hommes étaient déjà racistes, on voit le mal par la racine. Y'a pas assez de place dans le cœur des hommes, yeah. Pas assez de place dans le cœur des hommes, pas assez de place dans le cœur des hommes, yeah.
Pas assez de place dans le cœur des hommes. Le monde entier sur les réseaux. Des millions de cons par milliers. Ils sont tous sûrs d'avoir raison. Je leur pisse dessus dans mes morceaux. C'est plus facile pour humilier. Le prix de la liberté, c'est la parole des imbéciles. J'ai plus tellement d'estime pour toute cette armée d'illettrés. Maintenant que je suis sur Twitter et je comprends où j'ai mis les pieds. Maintenant que je suis sur Twitter et je suis devenu plus indécis.
Et là, me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste.
B200 tabac pour canaliser. Y'a trop de bâtards, y'a trop de bâtards pour tout baliser. La faute au réseau, même si les hommes étaient déjà racistes, on voit le mal par la racine. Y'a pas assez de place dans le cœur des hommes, yeah. Pas assez de place dans le cœur des hommes. Pas assez de place dans le cœur des hommes, yeah.
Pas assez de place dans le cœur des hommes.
C'est si facile de s'en mêler, c'est peu malin. S'ils trouvent rien et traitent trompe tête de s'en mêler, y'a un malaise. On libère toutes nos idées comme des gamins, ça fait 3 likes. Le pire c'est qu'on est souvent sur des toilettes.
Le prix de la liberté, c'est entendre la vie des racistes. Y'a aucune thérapie, il faudrait qu'on les déracine. Maintenant que je suis sur Twitter, je comprends le taf de l'extrême droite. Ils s'en lèchent les doigts, ils prennent des places et même des voix.
Alors que j'ai mes amis qui sont justement arabes.
Mais 200 tabacs. Mais 200 tabacs pour canaliser. Y'a trop de bâtards, y'a trop de bâtards pour tout baliser. La faute au réseau, même si les hommes étaient déjà racistes. On voit le mal par la ration. Y'a pas assez de place dans le cœur des hommes. Y'a pas assez de place dans le cœur des hommes. Pas assez de place dans le cœur des hommes. Y'a pas assez de place dans le cœur des hommes.
Et dont la meilleure amie est chadienne, donc plus noire qu'une arabe.
Je trouve que l'humour, c'est
une chose, et que ça ne veut pas dépasser certaines. Cœur des hommes, Romeo Chocolat, Elvis. Nouvel album sorti le 12 avril.
Merci Mélanie Bauer. Clara Dupont-Mono, on vous a laissé le soin de choisir le deuxième sujet.
Oui, car selon un sondage de l'OFDT, la France se divise en deux, quasiment à part égale. Une moitié est hostile à la légalisation du cannabis et l'autre est pour. Et cette moitié pour est en nette progression par rapport à 2013. Ah. Et d'ailleurs, pour 65% des Français, le cannabis serait moins dangereux pour la santé que l'alcool ou le tabac. Cerise sur le pétard, 9 Français sur 10 se disent favorables à la consommation de cannabis thérapeutique, prescrite donc par les médecins. Pour résumer, bientôt, ne pas fumer va devenir un handicap.
D'un côté, si c'était pas à la mode de fumer, ils diraient quoi les rappeurs dans leurs chansons ?
Je mange des gros bichotos, je mange des gros bichotos, du pain, des granola, des madeleines, mamie, nova. Le cuscuit dans mon cerveau, le cuscuit dans mon cerveau, vanille au chocolat, fais tourner les micas.
Pas d'extrait de l'album, hein, je vous
le dis. Non, non, c'est pas du tout un extrait de l'album de Romeo Elvis, c'est un sketch de Mr. V. Alors, Romeo Elvis, dans votre chanson Chocolat, donc de l'album éponyme, vous dites qu'il ne faut pas commencer. Vous dites que vous avez beaucoup fumé de cannabis et que c'était perdre du temps.
Ouais.
Voilà. Pourquoi vous dites ça ?
Parce qu'à un moment, dans l'album solo que j'ai sorti, où je suis très sincère sur tout ce que j'écris, il fallait que je revienne de façon sincère et honnête sur ma consommation. Et aujourd'hui, elle m'aide à vaincre mes problèmes d'acouphénie, donc mes vrais handicaps. Mm-hmm. Mais je pense qu'elle m'a freiné quand même pendant mon adolescence, parce que c'est quelque chose de, quand on en consomme beaucoup, qui peut être vraiment contre-productif. Et chronophage. Et voilà, c'est tout simplement cet aspect-là que j'ai envie de présenter une fois dans l'album pour assumer ce côté-là aussi. Je parle de la Belgique-Afrique, donc des aspects moins reluisants de la Belgique, alors que je fais toujours l'apologie de Bruxelles et compagnie et de la culture bruxelloise. Et dans Chocolat, je me positionne aussi d'une manière un peu plus objective. Et vu que je m'adresse à un public qui est vraiment jeune, je lui dis, en fait, il ne faut pas commencer, quoi.
Et dans la chanson Normale, à un moment, vous parlez de la célébrité. Et vous dites, alors, c'est assez troublant ce que vous dites. Vous dites que votre passé vous manque, que le silence vous manque. Et vous dites, ils sont tous plongés dans la drogue. Je ne parle pas que de la coke, il y a aussi de l'alcool.
Ouais.
Donc, ce n'est pas confortable, alors, la célébrité.
Non, non, clairement. Non, ça l'est pas. Hein. Non, ben ça a plein de, il y a plein de facilités, mais enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui peuvent sembler plus faciles qu'avant, mais non, en règle générale, c'est pas confortable. Et quand je parle de l'alcool, après, je m'adresse plus à la société en général. Je trouve qu'il est très hypocrite avec la consommation de l'alcool. Et toute mon adolescence, j'ai dû me cacher pour justement fumer des pétards et faire la teuf. Là où en fait, boire des coups, ça a toujours été un truc hyper presque institutionnalisé, quoi, un truc vraiment validé. En Belgique, c'est la bière à fond. Mmh. Et voilà, et je trouve que c'est hyper hypocrite en fait, parce que ça a mis des amis à moi dans des états bien plus scandaleux qu'avec le cannabis, quoi.
Romeo Elvis avec nous jusqu'à 18h. Nous sommes en 2019, il nous reste quoi, entre 10 et 30 ans pour changer notre mode de production et de consommation et sauver la planète. Aujourd'hui, le sexe aussi doit être éco-responsable. On s'inquiète de ce qu'on met sur notre peau, on s'inquiète de ce qu'il y a dans notre assiette, faut s'inquiéter de ce qu'on met dans notre... Qu'est-ce que le sexe écolo ? C'est le préservatif sans parabènes, c'est aussi le vibromasseur à énergie solaire, c'est aussi ceci.
Oh, putain, mais il gratte ses draps, Denis, t'as encore pris ton petit déjoli ?
Non.
Bah dis pas non, ça gratte, il y a des miettes.
Ah non, c'est des draps en chambre. C'est bio, sans pesticides. Et en plus, pas besoin de les nettoyer, le chambre s'auto-nettoie.
Comme le four ?
comme le four. Fais pas ci, fais pas ça, Lazaret de France 2. C'est un article que nous avons trouvé sur Slate.fr qui nous parle aussi de caoutchouc naturel pour les préservatifs issus de plantations durables et du commerce équitable. Roméo Elvis, je sais que l'environnement, c'est un de vos combats. Vous êtes venu avec votre gourde. Vous avez lancé le hashtag ma gourde à moi en Belgique notamment. Est-ce que l'écologie aujourd'hui, ça passe aussi par le sexe finalement?
Bah, je pense. Hein. Mm-hmm. Il faut s'attaquer à tous les domaines.
Ouais.
Clairement. Nous, avec ma copine, on éteint toutes les lumières maintenant, quoi. Avant, on faisait ça allumé, et ouais. Maintenant, on enlève même
Pour des raisons d'écologie?
Ouais. On enlève vraiment tout le courant, quoi, de tout l'appartement.
Mais vous iriez jusqu'à utiliser des préservatifs en peau de mouton? C'est ce qui est commercialisé.
En peau de mouton?
Absolument.
On va peut-être attendre un petit peu que le progrès se fasse encore, quoi.
Il existe déjà le progrès, hein. J'en ai pris l'exemple extrême, mais, c'est ça qui est commercialisé.
Pendant des siècles, c'est bien comme ça qu'ils étaient faits, les préservatifs. Alors, ça n'a jamais empêché les gens de.
Non, mais sauf qu'en plus, voilà, en plus, non, c'était un obstacle.
Voilà, mauvais exemple, d'accord, ok.
C'était un obstacle. C'est les Romains, en fait, qui ont utilisé et inventé ce préservatif en peau de mouton. Mais cela dit, ça protégeait des grossesses non désirées, mais pas des MST. Donc en plus, c'est efficacité.
C'est des MST de mouton, du coup.
Alors, je sais pas. Roméo Elvis est avec nous. On a envie de jouer avec vous, si vous êtes d'accord.
C'est l'heure du sketch de fin d'émission. Tous les jours, on propose à l'invité un sketch qui découvre. Et on vous a écrit un beau rôle, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, Louis Sarkozy, le fils de l'ancien président, a lancé une collection de mocassins. Il va donc présenter ce nouveau projet à son père, donc vous êtes Louis Sarkozy.
Okay.
Charline fera une excellente Carla Bruni et je serai quant à moi Nicolas Sarkozy, c'est parti. Alors Louis, comment vont les affaires?
Très bien papa, je me suis lancé dans le mocassin.
Ah, excellente idée, le mocassin à gland?
Pas vraiment mon concept, c'est plutôt le mocassin intello.
Un tel quoi?
Qu'est-ce qu'elle a ta meuf encore?
Viens, fais des vocalises. C'est quoi cette histoire de mocassin intello?
Bah, par exemple, je vends les mocassins Freud.
Ah, c'est remarquable. Tu veux qu'on en parle?
On dirait que Carla est emballée là.
Oui, c'est une grande intellectuelle. T'as quoi d'autre en magasin?
Il y a le modèle Marie Curie aussi.
T'aurais pas plutôt une paire de Finkielkraut?
Et c'est vous, gna, pauvre con.
Elle a dit quoi là?
Non, la limite Finkielkraut, justement.
Ok, d'accord, la nuance est fine. Bon, j'envisage de lancer le modèle Eindhoven aussi.
Ah non, nul, c'est nul.
Carla, ça te dirait d'avoir ton ex à tes pieds?
Non, elle est contre. Non. Et si tu crées plutôt une paire signée Nicolas?
Non, je peux pas. Je vends uniquement des mocassins intello, j'ai dit.
Attends, ne me dis pas que tu vends le mocassin Glucksmann.
Elle a couché aussi avec Raphaël Glucksmann.
Ne sois pas plus insolent que ton père, veux-tu?
Tu fais bien de me le dire, j'allais te proposer le mocassin à talonnette. En tout cas, elle a l'air super enthousiaste.
Mais c'est quoi ton but avec ces mocassins?
Habiller Roméo Elvis, le rappeur le plus classe de sa génération.
Sérieusement?
Mais elle dit quoi tout à l'heure, en fait?
Elle dit qu'elle adore l'idée et va en parler à son ami Jean-Paul Gaultier.
Bravo!
C'est pas fini.
Non, mais si le mocassin n'a plus de gland, vous revanchez vous êtes deux beaux glands à mocassin.
Excusez-moi, j'ai foiré la fin, monsieur.
Ça a été dommage.
C'est difficile, ça demande beaucoup de coffres de faire carrière. Je n'avais plus de souffle. Celui qui se plaît à dire « je porte le micro dans la plaie », comment s'appelle-t-il?
Guillaume Meurice, c'est de lui cette citation brillante. Aujourd'hui, il est allé rendre visite au lobby du plastique et évidemment, on sent que ça va bien se passer.
C'est la journée sans plastique sur France Inter, une fois de temps en temps, c'est comme ça. Laurence Bloch, notre directrice, trébuche sur une VHS d'Ushuaïa Nature et elle devient écolo. Comme ça pendant un quart d'heure, c'est incroyable. Et là, elle prend des décisions de dingue, comme supprimer de l'antenne les pubs pour Air France qui vantent les vols intérieurs. Attendez, non, c'est pas ça. Non, supprimer les touillettes en plastique par les touillettes en bois. Allez, prends bien ça dans la gueule, le réchauffement climatique. Alors évidemment, suite à la décision de Laurence, c'est tout le lobby du plastique hein, qui est en dépression nerveuse. Ils font la même tête que Nathalie Loiseau quand elle... ils font la même tête que Nathalie Loiseau tout court, d'ailleurs. Je le sais parce que j'ai rencontré Éric Quenet. C'est le patron de Plastique Europe, le grand lobby européen du plastique. Alors on va commencer par là. Est-ce que Éric se considère comme un lobbyiste?
Aujourd'hui, je représente l'association des producteurs de polymères. Donc, je suis la voix des producteurs.
Est-ce qu'on peut considérer que c'est un lobby?
Mais qui vous dit que les autres les ONG ne sont pas du lobby aussi?
Attendez, parce que vous n'avez pas répondu à la question.
Aujourd'hui, je suis le représentant de l'intérêt de la profession.
Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un lobby?
Je vous laisse votre responsabilité de votre affirmation.
Mais pour vous, oui ou non?
Je défends les intérêts de la profession.
Oui, alors règle numéro 1, quand on est lobbyiste, ne jamais dire qu'on est lobbyiste. Ça, c'est la base. C'est comme dans Fight Club. On apprend ça en première année, en CAP lobbyiste. C'est à la Christophe Barbier School, je vous rappelle, dans l'amphi Bernard Guetta. C'est la règle de base. On n'avoue jamais. Poursuivons. Qu'est-ce qu'il pense de cette deuxième journée sans plastique à France Inter?
D'abord, je vous remercie parce que nous n'avions pas été invités à la première journée. Et c'est quand même bien. Et c'est quand même bien que nous portions nos messages.
Mais ce n'était pas ma question.
Mais c'est ma réponse.
Alors, calme-toi, Georges Marchais. Deuxième règle du lobbyiste, ne pas répondre aux questions, mais en répondant quand même aux questions, mais autre chose. Là, c'est vraiment de l'art contemporain. Alors, poursuivons quand même. Quand il voit tous ces plastiques dans l'océan, est-ce qu'il se sent un peu responsable?
Je me sens responsable en tant que citoyen.
Oui.
Pas en tant qu'industriel.
C'est là que vous différenciez, vous, votre part d'industriel et votre part de citoyen.
Aujourd'hui, ce que je me dis...
Là, est-ce que je parle au citoyen ou à l'industriel?
Ou deux.
Ah, mince,
ou deux.
Ben
oui,
ah,
mais
c'est compliqué.
Je combine très bien les deux.
Oui, c'est le problème. Alors, quand il est sur la plage et qu'il voit des bouteilles en plastique dans la flotte, il doit se dire « Allez, regardez-moi ces saloperies qui traînent et oh, trop stylé la bouteille !» Excellent, sa vie est une sorte d'ascenseur émotionnel en fait permanent. Parce que Eric, il est écolo. Quel est son principal défi?
Le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est le défi clair de fin de vie des produits pour que ces produits-là ne se retrouvent plus en déchets sauvages.
Et pour résoudre ce défi, est-ce qu'on ne pourrait pas juste fabriquer moins de plastique?
Il a bugué,
j'ai failli perdre mon rico. Alors attention, parce qu'à lobbyiste de cette qualité, on n'en trouve pas tous les jours. Alors posons la question autrement, est-ce qu'il ne faut pas par exemple remplacer les bouteilles d'eau en plastique par des carafes en verre réutilisables?
L'impact environnemental du verre, le fait de produire du verre, de transporter du verre, le verre c'est plus lourd que le plastique. Donc en fait aujourd'hui, en termes d'impact environnemental et empreinte environnementale, l'empreinte environnementale aujourd'hui n'est pas prouvée que les produits de substitution seront meilleurs. Donc,
mais moi, ça veut dire que moi quand je bois un verre d'eau dans un vrai verre en verre, je pollue plus que si je prenais un gobelet en plastique?
Oui, mais après le problème, je ne vous demande pas de boire dans un verre en plastique. Ce que je vous demande aujourd'hui, et pour moi, c'est d'utiliser le bon emballage avant de le mettre dans le verre.
Ah, on est sur la base d'un champion du monde de Dinoui Lilan, putain. On a affaire au Raphaël Nadal du game. Il m'en renvoie toutes les questions en fond de cours, comme ça. C'est beau à voir, on dirait du François de Rugy. Alors attendez, essayons de piger quelque chose.
Ne me dites pas que vous n'avez pas compris cela. Je m'attaque aujourd'hui à l'emballage, je m'attaque pas au contenant final du verre.
Ah, donc voilà. C'est quand même mieux de boire dans une carafe d'eau avec un verre en verre qu'avec une bouteille en plastique.
Alors après, c'est votre choix. C'est un changement d'habitude que vous faites à ce moment-là. Moi, ce que je demande aux gens, c'est que je vous laisse.
Est-ce que vous pouvez me répondre oui ou non?
Vous utiliserez. Si vous utilisez aujourd'hui clairement de la bouteille, si vous utilisez à partir de votre robinet d'eau, vous utilisez ensuite un verre, une carafe en verre, et qu'ensuite vous utilisez un verre aussi longtemps que vous ne le cassez pas, ni l'un ni l'autre, l'impact sur une durée longue, parce que vous ne pouvez pas l'utiliser deux, trois fois, ensuite, automatiquement, ça c'est clair qu'aujourd'hui, l'impact environnemental sera plus faible. Oui.
Yes! Il l'a dit! Ah là là, ça c'est de l'accouchement sans péridurale, putain. Donc le bébé se porte bien, hein. Il s'appelle Oui, le verre qu'on réutilise pollue moins que le plastique jetable. Merci, passez-moi l'expression, mais la maman est une gourde, en verre, évidemment. Allez, concluons avec Eric et rendons hommage à Eric et à son parcours.
Je suis aujourd'hui représentant de Plastics Europe. Donc aujourd'hui, je représente l'intérêt des producteurs de polymères.
Oui, mais avant, vous étiez chez Total.
Là n'est pas le débat.
Donc on peut dire que pour vous, il y a quand même une passion de la pollution.
C'est une passion industrielle avant tout.
Et est-ce qu'après, vous allez aller chez Monsanto ou des choses comme ça?
Je refais référence à ce que je viens de vous dire.
Oui, on ne va pas se fâcher. Alors, je ne vais pas me fâcher avec mon nouvel ami Eric, que je vous conseille donc de suivre de près. D'ailleurs, cet été, il fera une tournée des plages. Enfin, si ce n'est pas lui, c'est ses produits qui feront le job. Et comme on dit en Méditerranée, nique ta mère, vive les polymères.
Out of my-
start. Hey, I'm glad you're back with your bitch. I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the sing in single. Ain't worried about a ring on my finger. So you...
Vous écoutiez Lizzo, figurez-vous. Ça, vous l'avez pas vu venir.
Et rappelez-moi le titre de cette chanson.
Truth Hurts.
Beaucoup de H et beaucoup de T. Hein.
And One Again sur France Inter. Et à présent, nous accueillons un écrivain américain. Place à Robert Little.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanunacker.
Ah, voilà des paniers.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Bienvenue donc, Robert Little. Votre roman qui vient de paraître s'intitule Koba, paru aux éditions Baker Street. Robert Little, je vous laisse avec nos deux chroniqueuses littéraires attitrées, Juliette Arnaud et Clara Dupont-Monod.
Alors, Koba n'est plus vraiment un livre d'espionnage, je situe l'intrigue, le jeune Léon Rosenthal, 10 ans et demi, c'est vraiment très jeune, oui. Fils de scientifique, se retrouve dans les méandres de la maison sur le quai, à Moscou. La maison sur le quai, c'est là où on logeait tous les hauts dignitaires soviétiques, les cadres du parti. Et il se retrouve perdu dans les méandres face à un vieillard qui néanmoins a l'air puissant, et qui dit s'appeler Koba, et il se trouve que Léon Rosenthal a besoin d'aide. Léon Rosenthal est déjà orphelin de père, et sa mère vient d'être arrêtée par la police politique. On est en 1953, il a de la chance dans son malheur, Léon, sauf que c'est un peu la chance toute relative de Mowgli face à Shere Khan. Alors ce roman, c'est un roman qui est mi-roman initiatique, mi-roman historique, mi-roman horrifique.
Juliette,
oui,
c'est pas une chronique. Hein,
Clara me susurre que ça fait demi, enfin ça fait pas demi mais trois. Et alors moi je me demande quelle moitié justement, enfin quel tiers à votre préférence, horrifique, historique ou initiatique.
J'ai pas la moindre idée. Non, mais je trouve cette au bas c'est un livre historique. C'est basé sur les événements et le temps, l'atmosphère, les attitudes qui étaient prévalentes dans le dernier mois, les dernières semaines de Staline.
Et le point de départ, c'est l'enfant ou c'est vraiment le désir de...
C'était tous les deux. L'enfant est très important pour moi. Parce que quand j'ai commencé le projet, je n'avais pas une très bonne idée comment je peux rendre un vieil homme qui est un brute, qui est un monstre finalement, un des deux grands monstres de la première moitié du XXe siècle. Comment je peux rendre un homme comme ça humain? Et mon solution qui a tombé dans mon cerveau, quand mon cerveau a marché, c'était que de voir le vieil homme à travers les yeux d'un garçon de 10 ans et demi et 2 jours, innocent. Et à partir de ça, le garçon ne sait pas qui est le vieil homme, parce que le vieil homme, il ne ressemble pas à Staline. Il a 74 ans, et comme le vieil homme dit... Ah, le garçon, à propos de Staline, Staline a pris l'âge, mais ses photos qu'on voit partout à Moscou, sur la façade de Goum, dans les classes, dans les journaux, ses photos n'ont pas pris l'âge. Donc le garçon est devant un vieil homme et il dit ce qu'il pense. Et il vient d'une famille juive. Et dans les familles juives, on donne une description d'un garçon comme ça, il a chutzpah. Vous connaissez le mot chutzpah?
Non.
Alors, c'est un mot yiddish. Et en Israël, j'ai appris la définition classique de chutzpah, c'est quand un garçon tue son père et sa mère et il demande que le juge le gracie parce qu'elle est orphelin. Ça, c'est chutzpah. Et le héros, le narrateur, le garçon qui raconte l'histoire, il a cette qualité, il est audace, il est turbulent, il est surdoué et il dit ce qu'il pense, même à le vieil homme.
Le jeune garçon, Léon, est fasciné par Koba, par celui qu'il pense être juste Koba et qui va se révéler être encore un peu plus important que Koba, sans vouloir tout dévoiler. Quelle est la part de vous qui est fascinée par Staline ou par quelle part de Staline?
Ah, moi je crois partout. Et surtout les jeunesses. Ok, Koba, c'était le nom de guerre de Staline quand il était avant la révolution bolchevique, quand il était un brigand, un gangster dans la Géorgie. Il braquait les banques, il couchait avec toutes les femmes, il extorquait les gens riches, il tuait ses ennemis à droite à gauche.
Ça, il a continué. Hein.
Absolument. Mais je parle de jeunes. De jeunes. Mais et il a organisé l'assassinat de les, comme il était le chef de la cellule bolchevique en Géorgie, il a organisé l'assassinat des officiels de le tsar et il même participé dans ça. Mais aussi, il avait un autre côté qui est très curieux. Est-ce que vous savez que Staline, Koba, a écrit et publié les poèmes quand il avait 16 ans, 15 ans.
Et Hitler faisait de très belles aquarelles, rappelons-le. On va passer avec Robert Little à un sujet quand même de fond, parce que là on a bien rigolé. Mais,
c'est un peu la touche écossaise, cette émission. Évidemment.
Robert Little, la présidence de Donald Trump nuit gravement au bonheur des Américains, semble-t-il. L'ONU mesure l'indice de bonheur de chaque pays chaque année en tenant compte des libertés, de la santé, des filets sociaux ou de l'éducation. Les États-Unis dégringolent dans ce classement à cause du climat d'incertitude que Trump fait souffler sur le pays.
Selon la charte de l'ONU, le Groland est le seul et unique pays de merde du monde. Et nous attaquerons devant la Cour de justice internationale de La Haye tous ceux qui prétendront le contraire.
En effet, l'image et la réputation de pays de merde du Groland lui permet d'être la dernière destination de tourisme, de business et d'immigration au monde. Une spécificité que les Grolandais ne sont pas prêts de laisser à d'autres.
Eh, c'est pas si facile, hein. Pour être un pays de merde, faut être des sacrés cons, quoi. Mais c'est vrai qu'avec ce Donald Trump, là... Maintenant, il commence à nous faire sérieusement de l'ombre, quoi.
Groland, bien sûr. C'est un article que nous avons trouvé dans le Journal de Montréal qui nous explique que l'ONU a cet indice de bonheur et que les États-Unis ont dégringolé de plusieurs rangs dans ce classement. Vous, Robert Little, vous avez quitté les États-Unis parce que vous ne vouliez pas voir grandir vos enfants sous Nixon. Alors, on se dit sous Trump, mais il y a un exode. Si tous les gens font comme vous, il y a un exode qui se prépare. Par rapport à Nixon,
je crois que c'est pas le bonheur qui chute, mais c'est plutôt l'espoir. Mm-hmm. Pour parler sérieusement, ce qui chute en Amérique, c'est l'espoir. Tout le monde avant cette mec qui je nomme pas avait l'espoir dans tous les niveaux de la société, et je crois dans un certain sens que Trump n'est pas le problème. Trump est le symptôme de le problème. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 62 millions de personnes qui ont voté pour lui. Et voilà le problème de 62 millions de personnes et le Parti républicain qui le soutient maintenant. Et donc, on perd beaucoup d'espoir. Et pour moi, je vais dire la vérité, qui n'est pas très confortable. Je crois que l'Amérique, c'est une civilisation en déclin. Comme le Rome et la Grèce et les Aztèques et le Persien. Et il faut confronter le fait que l'Amérique est en train de dégringoler. On dit ça.
Jusqu'à l'élimination alors? Jusqu'à l'extinction? Parce que les Aztèques, ils
ont
été...
Il ne va pas. L'extinction est très loin, peut-être, parce qu'il y a beaucoup d'argent là, il y a beaucoup de charbon que Trump adore. Mais je ne parle pas d'extinction. Le Rome n'était pas extinct tout de suite. Mm-hmm. Je parle d'une civilisation qui est en déclin. Et il faut confronter ça. Et la seule chose que je vois qui peut confronter ça, c'est l'Europe. Mais où est l'Europe? J'ai de mal de voir l'Europe.
Mm-hmm. Il y a Clara Dupont-Mono qui s'est penchée dans Robert Little, Koba, paru chez Baker Street.
Eh bien oui, c'est vous notre actualité, Robert Little, avec votre livre Koba. Alors moi, je suis très contente de recevoir un maniaque. Alors, ne le prenez pas mal, parce qu'en littérature, être maniaque, c'est un compliment. Je vous rappelle que Gustave Flaubert ne pouvait pas décrire un restaurant sans être allé lui-même étudier la carte du restaurant. C'était un maniaque de l'exactitude, un peu comme vous, Robert Little. Alors vous, ce ne sont pas les restaurants, mais c'est plutôt l'URSS. C'est votre grande obsession. Vous l'avez étudié avec un soin de chirurgien, vous connaissez parfaitement les rouages du KGB, de la société russe, vous savez comment pensait Staline, le grand-père de Guillaume Meurice, qu'on embrasse. Et cette obsession minutieuse irrigue tous vos livres, en fait, et évidemment rebelote avec Koba. Nous sommes à Moscou, en pleine purge stalinienne, dans un grand, grand, grand immeuble. Et ce petit garçon dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle Léon, comme Trotsky d'ailleurs, assiste à l'arrestation de sa mère, qui est médecin. Elle vient de rentrer de l'hôpital, il y a des hommes en noir qui lui sautent dessus. Et Léon, lui, il
il est caché dans une pièce secrète et il assiste à l'arrestation de sa mère. Si on s'arrête une seconde sur cette scène, l'idée c'est comment en écriture on peut transmettre l'émotion de cet enfant. Alors vous avez plusieurs options, parce que c'est compliqué à transmettre. La première option c'est de dire il était angoissé. Bon, ok, merci pour tout, à lundi Guillaume Musso. Bon, on peut le faire à la Barbara Cartland. Son cœur battait comme une balalaïka dans la tempête des steppes neigeuses rejoignantes, etc., etc. Bon, Barbara Cartland. On peut le faire à la Houellebecq. Sa mère avait-elle déjà partousé, se demanda-t-il en la regardant une dernière fois. Bon. Mais on peut, comme Robert Little, utiliser les détails. Parce que dans votre livre, Léon se demande une seule chose alors qu'il assiste à l'arrestation de sa mère, c'est est-ce qu'elle ne va pas avoir trop froid avec ses chaussures en plastique blanc de l'hôpital. Et ce sens du détail, qui est absolument extraordinaire, ça porte un nom très précis en littérature, ça s'appelle une synecdoque. Alors, ça fait un peu maladie de peau, bon, mais c'est un outil très pratique. C'est l'idée que le détail dit le général, le tout petit dit le tout. C'est par exemple Émile Zola qui va décrire un alambic pour parler de l'alcoolisme. C'est l'expression une voile pour dire un bateau. Et on peut s'amuser à en faire, hein. On peut juste décrire une mèche de cheveux blonds de Charline, toute petite, pour décrire la gigantesque splendeur, par exemple. Mais,
quel failleur, un petit peu.
Mais forcément, ce premier rôle donné au détail génère quelque chose de très visuel. Lire votre livre, Robert Little, c'est comme regarder un film. Et d'ailleurs, à quoi est-ce qu'on pense? Au moment où Léon rencontre d'autres enfants orphelins qui, eux aussi, sont perdus dans les dédales de l'immeuble, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Eh bien, c'est un film, comme par hasard, et pas n'importe lequel, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle La Cité des enfants perdu, de Caro et Genet. C'est exactement la même thématique. Ce sont des enfants qui sont unis dans un territoire hostile et clos. Alors, Léon ne rencontre pas uniquement des enfants dans cet immeuble. Il se trouve qu'à un moment, il arrive dans une salle de bal désaffectée immense. Et là, il voit derrière un bureau, un vieux monsieur, donc, entouré de gardes du corps, un vieux monsieur très très laid. Et là aussi, au lieu de dire « il était moche », vous écrivez, un unique poil noir s'échappait de sa narine gauche. Là aussi, synecdoque bis, un tout petit détail pour dire beaucoup plus. Alors, il a l'air malade. Léon lui demande, tu as des ulcères? Et il répond, non, j'en donne. Ça, c'est magnifique. Il dit qu'il s'appelle Koba, il parle de la Géorgie, il pète. Il est visiblement très influent. Léon l'adore et en même temps, il s'en méfie. Et là, on entre dans l'étrangeté d'un lien qui peut se tisser entre l'oppressé et l'oppresseur, entre le tyran et le pur. Et là aussi, on pense à un film où c'est exactement la même thématique qui s'appelle Le vieil homme et l'enfant de Claude Berry, qui est sorti en 1967. Et bien sûr, au lieu d'écrire les sentiments qui émergent entre Koba et Léon, qu'est-ce que vous faites? Vous décrivez une partie de Mikado qu'ils jouent ensemble, synecdoque troisième. Je vous redonne les références. Koba de Robert Little est paru chez Baker Street.
Merci Clara Dupont-Monod. Robert Little, vous êtes d'accord avec l'analyse? C'est vrai que le détail chez vous, c'est...
Oui, c'est excellent de dire tout ça.
Mais...
Parce que c'est... Non, il n'y a pas un mais. Il n'y a même pas un mais. C'est parce que, si j'ose dire que j'ai une théorie d'écriture, c'est à peu près le fait qu'on doit donner les petits détails, voilà. mais il y a une raison pour le faire ça, pour co-opt. Est-ce que ça, c'est un mot français de co-opt? Lecteur, lectrice, qui deviennent co-author avec vous.
Oui.
Si vous donnez une description entièrement d'une chose, le lecteur n'a pas besoin d'imagination. Mais si vous donnez un petit détail de petite chose, le lecteur devient le co-author et le livre, à mon avis, devient plus vivant. Mais c'est une petite
Little.
Façon d'approcher ouais. l'écriture.
C'est une petite astuce de Robert, hein, notez-la chez vous. Koba aux éditions Baker Street. Robert Little, on va profiter de votre tropisme russe et du thème d'ailleurs de votre roman Koba. Je laisse le deuxième sujet à Juliette Arnoux.
Alors c'est un blogueur russe qui s'appelle Alexandre Gorbounov et qui dézingue le pouvoir russe. Forcément, le pouvoir russe en question est un peu fâché et se met à menacer les parents du blogueur russe. Alors, le blogueur qui était masqué choisit de se démasquer lui-même. Et là, aux surprises, Alexandre Gorbounov, eh ben c'est un frêle jeune homme cloué sur une chaise roulante. Il a la même maladie musculaire dégénérative que Stephen Hawking. Et là, même un gros costaud comme Poutine, il est un peu ennuyé. Il aurait peut-être dû s'interroger sur la force, en demandant de l'aide, par exemple, de l'aide intellectuelle au plus costaud des gros costauds.
C'est bête, la force. Pourquoi tu dis ça, Obélix?
C'est bête et c'est méchant. Le loup mange l'agneau, le requin le petit poisson, l'araignée mange la mouche. C'est toujours le plus gentil, le moins fort.
On peut servir de sa force pour défendre le faible.
Oui. Mais quand je donne des baffes à un fort, comme c'est moi le plus fort, eh ben lui, il devient faible.
Mais quand les Romains nous attaquent, c'est eux les forts et nous les faibles, il faut bien qu'on se défende.
Moi, je pense que la vraie force, c'est de retenir sa force.
Gérard Depardieu et Clovis Cornillac.
Voilà, dans Astérix aux Jeux Olympiques. Nous avons choisi ce sujet, Robert, pour le parallèle évident avec votre histoire. Dans votre livre, c'est un enfant qui est face à Staline, et là, c'est un jeune homme handicapé.
27 ans, il a.
27 ans, il écrit, il a le plus que son index droit qui marche, c'est avec ça qu'il écrit. Et donc, ce jeune handicapé face à Poutine. On en vient à se demander si seule la vulnérabilité peut contrer la force abusive.
Le premier problème avec ce jeune homme, c'est qu'il y a un seul dans un pays de quoi 150 millions de personnes. Et le fait qu'il y a un seul, on parle de lui maintenant. Et il a un courage fou. Peut-être il est un peu protégé parce qu'il est malade.
Exactement,
peut-être.
La vulnérabilité.
Mais c'est quand même un courage incroyable. Et quand j'ai lu ça ici sur le papier, j'ai pensé tout de suite, vous vous souvenez de le grand événement en Chine où le jeune homme se plantait devant un char.
La place Tiananmen.
Et le char a fait à droite, il a fait, le char à gauche, il a fait. Et j'ai cette photo dans ma maison parce que j'ai jamais oublié le courage ce que peut avoir une seule personne. Et j'ai son nom. Je suis gêné du fait que je ne souviens pas de son nom, mais j'ai marqué son nom sur la photo et j'ai appris qu'il était mort. Il n'a pas survécu. Dans ces sociétés, le fait qu'il y a un ici et un là, ça fait quoi? Ça va pas changer grand-chose. Nous, il faut un million. Il faut beaucoup de monde. Il faut beaucoup de journaux. Il faut beaucoup de voix qui se lèvent, qui disent la vérité.
Mais si les voix se lèvent pas, vous pensez que le peuple russe, du coup, valide la politique de Poutine? Quelle est votre interprétation?
Des choses très intéressantes qui passent en Russie aujourd'hui, et j'ai appris ça très récemment, c'est que l'homme le plus populaire en toute Russie n'est pas Poutine, c'est Staline.
Mais alors justement, le jeune blogueur Staline Goulag, il a une théorie là-dessus. Il dit que Poutine utilise Staline pour faire sa propre pub. En fait, c'est un win-win.
C'est sûr.
Et il dit très précisément, lui, Staline Goulag, il dit qu'il n'y a pas d'amour populaire pour Staline, que c'est un mythe. La seule chose que retient le peuple, c'est que sous Staline, à la différence de sous Poutine, tout le monde en bavait. Les cadres comme le peuple.
Non, je ne vois pas ça comme ça. Ce qui se souvient des Russes que je connais, c'est que Staline a gagné la guerre. Et à le moment qu'il a gagné la guerre, la Russie était un grand pays parmi tous les autres pays, à Yalta, à toutes les conférences. Il était à côté de Roosevelt et Churchill. Et pour moi, Poutine, vous avez raison de le dire, il pousse, il soutient, il souligne Staline. Mais la jeune génération a oublié le Staline de 29, la collectivisation, les millions de personnes mortes dans les famines qu'il a créées en
oui,
Ukraine.
Oui, la marche forcée pour les fermes.
Tout ça, c'est oublié. Oui. C'est l'homme qui a gagné la guerre. Et parenthèses, on ne parle pas de les 12 millions d'armées russes qui a vraiment gagné la guerre. C'est Staline qui a gagné la guerre. Et donc, la Russie était un grand pays. Si vous voulez, c'est l'image miroir de Trump. Trump, il veut faire « Make America Great Again ». Et Poutine, il est dans la même onde « Make Russia Great Again ».
Où est-ce qu'on peut lire l'article?
C'est un très bel article du journal suisse Le Temps.
Voilà. Merci beaucoup, Juliette Arnaud. Très beau sujet, en effet. L'homme à la guitare va encore frapper.
Frédéric Fromet, comme tous les jours cette semaine. Aujourd'hui, hommage au Balkany sur du Florent Pagny.
Si tu veux magouiller, t'en foutre plein les poches, sans rien à te reprocher, comme Isa et Patoche. Si tu veux magouiller, garde bien en tête qu'à Levallois-Perret, on est pauvre et honnête. On n'a pas un radis, on est dans la dèche. Pas de villa, pas de jacuzzi, pas de palais à Marrakech. Si tu veux magouiller, faire le filou, les Balkany l'ont juré. Pas de ça chez nous. Nous sommes les gens les plus honnêtes du monde. Mais si tu veux magouiller, c'est pas un problème. L'expérience a prouvé qu'on vote pour toi quand même. Si tu veux magouiller, cacher ton patrimoine. Crois-tu que Levallois-Perret soit le Liechtenstein? Bon, peut-être un peu, mais est-ce vraiment mal? Qui peut prétendre être amoureux d'un agent de l'administration fiscale? Si tu veux magouiller, avoir des casseroles au cul, les Balkany l'ont juré, jamais corrompu. Ma femme et moi avons horreur de la corruption. Si tu veux magouiller, t'en foutre plein les poches. N'oublie jamais de nier, comme Isa et Patoche. Et si Levallois-Perret, et si Léo de Seine était plus mal fréquenté que la prison de Fresnes?
Le mercredi après-midi, c'est fini déjà. Pour ce qui nous concerne en tout cas. Hein. Vous chez vous, faites ce que vous voulez. Hein.
Et nous, qu'est-ce qu'on fait demain?
Eh bien demain, nous recevons Bernard Hinault, figurez-vous. Et ensuite, nous allons parler du Venezuela avec une chercheuse vénézuélienne, Paula Vasquez Lezama. Tu vas être un petit peu la douche écossaise, cette
elle
émission.
Elle a un nom de grimpeur du Tour de France.
Allez, à demain les amis.